Et maintenant, place au théâtre.
À la base de ce 8e épisode, s'est faufilée une question. Une question toute simple, limite sournoise.
Pourquoi les médecins de Molière, qui étaient aussi ceux de Louis XIV, ont-ils fait rire toute la cour et le roi lui-même?
Et ce qui faisait rire Louis XIV nous fait encore rire aujourd'hui. La question se pose dans les mêmes termes.
Pourquoi un coup de griffe à la médecine provoque-t-il automatiquement le rire et les applaudissements dans une salle de spectacle, bien plus sûrement encore que les infortunes conjugales?
Parce qu'on adore se moquer des savants, surtout lorsqu'ils n'en sont pas, comme les médecins de Molière. Et plus encore, quand ces savants sont des imposteurs, donc des vaniteux, et qu'ils ne parviennent jamais à vous sauver de la mort.
Le fait est que l'on rit volontiers au théâtre de la médecine en chapeau pointu, comme l'on aime avoir rossé au guignol le gendarme en bicorne, ce qui n'empêche pas de révérer la science et de respecter la maréchaussée.
Le théâtre de Molière, c'est une dénonciation de l'erreur et des pièges de l'imagination. Or, le souci de notre santé est une machine à fabriquer de l'imaginaire.
Respirez.
Et les médecins du XVIIe siècle furent des manipulateurs de l'âme. Ils se prenaient au sérieux, on les craignait, leur science était obscure et ils prescrivaient des médications proches de la sorcellerie. Ajoutez au passage qu'ils prenaient une fortune pour réussir à ne pas soigner. Pensez bien qu'à l'époque, une simple fièvre pouvait vous conduire au cercueil. Une douleur naissante générait toutes sortes d'angoisses terribles.
Toussez.
Je tousse, vais-je attraper la mort?
Au suivant.
Alors quand on rit devant les médecins de Molière, de quoi rit-on vraiment?
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence!
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
8e épisode, le règne des charlatans.
Permettez-moi, Majesté.
L'histoire commence en janvier 1666. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, reine de France et mère de Louis XIV, se meurt d'un cancer du sein.
Sans doute faudra-t-il encore pratiquer la saignée.
Depuis des mois, on a tenté toutes sortes de remèdes. On a pratiqué la saignée. On a glacé la tumeur pour la refroidir.
C'est une méthode qui date depuis fort longtemps déjà, qui a fait ses preuves.
Et puis on a incisé la tumeur pour y glisser des tranches de bœuf, pensant que le parasite arrêterait ainsi de dévorer les chairs d'Anne d'Autriche. Tout ça est authentique. Et bien sûr, rien n'a fonctionné. Alors les médecins du Louvre ont décidé de tailler à vif. Mais le crabe est robuste.
Le mal est tenace. Que nous avons découpé et réinventé, c'est presque reformé. Mais pas de pourriture dans la plaie, saine. Avec l'aide du ciel et votre courage, Majesté, j'en viendrai à vous.
Chaque jour, devant la cour, les médecins s'attaquent au cancer de la reine, à la lame.
Je demande pardon à votre Majesté pour les douleurs que je vais lui causer. Je trancherai mince ce soir. Serrez l'éponge.
Même le plus grand roi du monde ne pouvait rien faire face au cancer de sa mère.
Mon Dieu. Madame, vos médecins disaient qu'ils vous soignaient. Que le mal régressait.
Ils m'ont découpé le sein jusqu'à l'os. La tumeur semblait vaincue. Pourtant, vous voyez, je m'en vais, Louis.
Une
Patri, Fili, Spiritus Sancti.
Dans de grandes souffrances, Anne d'Autriche rendit son dernier souffle.
Amen.
Amen.
Le 20 janvier 1666, dans ses appartements du Louvre.
Monsieur, nous ferons mieux la prochaine fois.
Dans l'antichambre, accablé, Louis XIV fit un malaise. Comment soigner un cancer en 1666?
C'est une maladie qui a continué de nous résister, donc on n'en voudra pas trop aux médecins du temps de Molière.
L'historien Patrick Dandray.
Mais il est vrai que c'était une maladie étrange, une maladie qui rongeait. On l'assimilait parfois à une mélancolie, c'est-à-dire une maladie de la bile noire. La reine est morte comme on le faisait, en se consolant par la religion, et elle a accrédité ce que l'on pensait de la médecine, c'est-à-dire qu'elle était incapable, et que de surcroît, avec un air très péremptoire, elle vous prédisait des choses qui n'arrivaient pas. Quelques années plus tôt, c'était la belle-sœur du roi, madame, qui était morte, et de la même façon, le médecin qui la soignait avait dit au roi qu'il répondait de la santé de madame. Et monsieur, son mari, a répondu à ce médecin qu'il lui avait dit la même chose de son fils et que son fils était mort. Et qu'il avait donc de moins en moins confiance. Et c'est bien naturel parce que c'était une médecine qui avait une double difficulté. Elle ne parvenait pas à théoriser la maladie parce qu'elle la connaissait mal. Et elle ne parvenait par conséquent pas à la soigner parce que ses médications étaient plutôt de nature intrusive et finissaient par tuer le malade. Vous savez que Molière aura ce mot terrible dans Le malade imaginaire. Les malades meurent le plus souvent de leurs médicaments plutôt que de leur maladie. C'était le cas. Et les médecins de cour étaient des personnages un peu dans le statut de magicien. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils étaient là parce qu'il en fallait. Mais finalement, ils étaient un peu comme les prêtres. Ils n'avaient jamais vraiment démontré que Dieu existait. Ils n'avaient jamais vraiment démontré que la médecine pouvait être efficace. Au point même que un an avant, Molière, qui a fait du médecin, disait Boileau, sa tête de Turc, la tête de Turc de son théâtre, au point que donc, un an avant, dans L'amour médecin, Molière avait mis en scène quatre médecins que l'on reconnaissait, à travers leur nom, à travers leur tic. On prétend même qu'ils s'étaient un peu grimés pour ressembler aux médecins de cour. Il y avait justement dedans le médecin de la reine. Et ces médecins faisaient un diagnostic autour d'une malade qui était une fausse malade, une certaine Lucinde qui se contentait de mimer la maladie pour faire venir à son chevet son jeune amant, lui aussi déguisé en médecin, mais en un médecin qui allait à la fin de la pièce l'épouser sous couvert de la médicamenter. Et ça, c'est parce que la médecine est assez fréquente chez Molière, assez constante, puisque la première comédie que nous ayons de lui, on estime qu'elle est de lui, mais on ne l'a découverte que beaucoup plus tard, et qui s'appelle Le médecin volant.
Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade.
Cette première comédie tente un pont jusqu'à la dernière, Le malade imaginaire, dans laquelle on sait qu'il est mort, ou quasiment. Donc, c'est un pont, et on voit deux thèmes dans la comédie médicale de Molière. Il y a d'un côté la médecine pour rire, avec des valets qui jouent le rôle de médecin et qui caricature de façon plaisante la science médicale. Puis de l'autre, il y a de vrais médecins, des médecins de la faculté qui commencent à entrer sur son théâtre dans L'amour médecin, Monsieur de Pourceaugnac et Le malade imaginaire.
Les médecins du XVIIe siècle formaient un groupe social très identifiable. Ils ne passaient jamais inaperçus.
Ce personnage qui déambule dans une rue de Paris au pas lent de sa monture est un médecin qui va visiter ses malades.
Monsieur le médecin, je suis votre serviteur.
Bonjour mon ami, le bonjour.
Mais ce n'est pas un médecin ordinaire. Il ne soigne pas les petits artisans, les petits commerçants, ni même le menu fretin de la bourgeoisie. Monsieur Bodineau est médecin du roi. Médecin du roi Louis XIV. C'est un personnage fort respecté. Dans la rue, il ne marche jamais dans le ruisseau. Les passants lui laissent respectueusement la partie la plus haute de la chaussée. Il tient, comme on dit, le haut du pavé.
Votre très humble serviteur, monsieur le médecin, très humble serviteur.
Molière s'est nourri des travers des médecins de son temps. Mais notons que cette caste médicale a une longue histoire avec le théâtre.
Alors, il y a des liens très forts entre théâtre et médecine, et ce, depuis l'Antiquité, depuis notamment le théâtre d'Aristophane.
Florence Philippi est historienne.
On retrouve la thématique médicale dans la comédie italienne et la comédie espagnole des 16e et 17e siècles, et on sait que les canevas dramatiques circulaient déjà dans l'Europe du 17e siècle, et que Molière était évidemment très influencé par la comédie italienne, et qu'il avait sans doute déjà éprouvé l'efficacité de cette thématique depuis ses premiers essais d'auteur et de comédien. Il me semble néanmoins, évidemment, que cette thématique est revisitée par Molière. Il y a d'abord cette dimension spectaculaire de la médecine. Sa posture, son costume, son jargon se prêtent particulièrement aux effets comiques, aussi bien aux comiques gestuels qu'aux jeux de mots, par exemple.
Est-ce qu'on peut décrire son costume, justement, au médecin du XVIIe siècle ?
Alors oui, il y a un costume tout à fait caractéristique, avec cette grande toge, cette collerette, qui est un peu carnavalesque d'ailleurs. C'est aussi en cela que ce costume se prête particulièrement à la mise en scène. Ce grand chapeau, et c'est un costume très identifiable pour les spectateurs. Mais ce n'est pas le seul aspect de la médecine qui est exploité par Molière. Il y a aussi évidemment la thématique de la maladie, imaginaire en particulier. Et il me semble surtout que le thème du médecin et de la maladie est là pour éprouver, à contrario, l'efficacité du théâtre. C'est-à-dire que si les remèdes des médecins sont inefficaces, le théâtre, lui, a des vertus, et notamment des vertus thérapeutiques.
Monsieur, je vais donc quérir le chirurgien et l'apothicaire pour la saignée et les lavements. Hein.
C'est inutile. Je me sens déjà mieux depuis la visite de ce médecin.
Mais monsieur, il a dit...
Et il me vient un quatrain qui va achever de me mettre en bonne santé.
Un quatrain, monsieur, c'est un médicament?
Oui, poétique. Paul, ce grand médecin, l'effroi de son quartier, qui causa plus de maux que la peste et la guerre, est curé maintenant et met les gens en terre. Il n'a point changé de métier. Je me sens tout à fait bien que l'on m'apporte un demi-gigot et un quarteron de vin.
Dans le répertoire de Molière, sur 30 pièces au total, on n'en compte pas moins de 5 consacrées aux médecins. Ce n'est pas anodin.
Alors il faut dire que le médecin pour Molière est un bon client, comme vous dites vous à la radio. C'est un bon client parce que c'est un savant. Alors les savants c'est toujours drôle, surtout quand on n'est pas savant, on aime bien se moquer d'eux. Ensuite, c'est un savant dont le savoir est une imposture. Alors ça c'est encore plus agréable parce qu'il se hausse du col et évidemment il est d'autant plus vaniteux qu'il ne sait rien. Et dernier élément, pour vous mener au tombeau sans réussir à vous sauver, il vous prend beaucoup d'argent. Donc c'est un imposteur qui est en plus un voleur. Ça fait beaucoup d'éléments. Et vous savez que le théâtre de Molière, c'est quand même une dénonciation de l'erreur. C'est une dénonciation des pièges de l'imagination. Or, y a-t-il une imagination qui nous travaille davantage, tous, depuis toujours et jusqu'à maintenant, une autre imagination que celle d'espérer des médications pour les maux que nous souffrons? Alors, il faut bien concevoir que, à une époque où aucun médicament ne fonctionnait, il y avait une sorte de terreur qui s'emparait de l'imagination et qui explique, je dirais, cette économie de l'erreur qui caractérise la médecine du temps de Molière. C'est-à-dire que Molière, comme son époque, sont obsédés par l'erreur. Tous les gens qui écrivent, les moralistes, les anatomistes de l'âme, sont attachés à cela. Regardez Descartes, hein, c'est un philosophe de l'erreur. Or, Molière s'est intéressé à l'erreur et je dirais que l'erreur médicale, c'est un peu la grammaire de toutes les erreurs qu'il va dénoncer. Parce que l'erreur, elle est renforcée, démultipliée par les passions. Vous savez qu'on appelle passion à cette époque-là ce que nous appelons les émotions. Et il se trouve qu'il n'y a peut-être pas d'émotion plus forte dans l'être humain que cette triple émotion que suscite la maladie, c'est-à-dire le désir de la santé, la peur de la perdre et la colère de voir que, étant en santé, notre corps nous trahit et que nous risquons de la perdre. Et quand vous avez ces trois ingrédients, ces trois passions donc, qui se combinent pour produire une sorte de déflagration d'angoisse et de fureur, ben, vous n'avez plus de raison. Et le théâtre de Molière, c'est une sorte de scène sur laquelle se déroule le combat de la raison et de la passion. Alors, à la même époque, il y avait le problème des sorcières. C'était aussi un conflit passion-raison.
Un traité de médecine paru sous François Ier en 1539 fait connaître que le sang du lièvre guérit la pierre, les crottes de souris, la gravelle, la fiente de chien, les maux de gorge, les cloportes bouillies, les écrouelles. On indique aussi que le poumon d'ornard, lavé au vin, guérit les crispes d'asthme, que les vers de terre, lavés au vin blanc, guérissent de la jaunisse, et que les chatons, les pauvres petites bêtes, les chatons hachés menu-menu avec une oie et du sel, guérissent de la goutte.
C'est une vapeur!
À côté de cette obscurité la plus totale, à côté de cette médecine un peu archaïque que la faculté défend, hein, c'est le point de vue de la faculté de médecine de l'époque, il y a malgré tout des vrais progrès scientifiques sur la connaissance du corps à l'époque. Qu'est-ce qu'on découvre par exemple, Patrick Dandré, au XVIIe siècle ?
Alors il y a en gros, je dirais, deux points sur lesquels on évolue un peu. Il y a l'anatomie avec Vésale au XVIe siècle qui nous permet de mieux connaître le corps humain. On se permet quelques dissections discrètes qui vont plus loin que ce qu'on pouvait savoir depuis l'Antiquité où Galien disséquait, semble-t-il, plutôt des singes que des êtres humains. Il y a des confusions qui sont intervenues de ce type dans cette médecine qui avait été sclérosée et qui devenait une sorte de savoir presque religieux. Puis il y a un second domaine dans lequel il y a une évolution, c'est bien sûr la circulation du sang, c'est la physiologie et une meilleure connaissance de la manière dont à l'intérieur du corps se passent les choses.
Je vous ai parlé rapidement de la grande découverte du médecin anglais Harvey concernant...
Oui, c'est la circulation du sang.
Exactement. Aussi qu'il a eu beaucoup de mal à imposer sa découverte.
Oui, même en France.
Mais comment donc ? Monsieur Guy Patin, qui était doyen de la faculté de Paris au XVe siècle, écrivit à propos de la miraculeuse découverte de Harvey...
Un hérétique étranger, un Anglais.
La circulation est paradoxale... Inutile à la médecine, fausse, impossible, inintelligible, absurde, nuisible à la vie de l'homme. Voilà.
Eh bien, je vois que les médecins de Molière paraissent des créations presque sages à côté de ces énormités que vous nous présentez.
Face au refus d'admettre des avancées scientifiques, il n'empêche que la marche de l'histoire se poursuit.
On voit donc s'ouvrir des perspectives qui sont en train de démolir l'ancien continent de la médecine hippocratique et galénique, qui était attachée d'ailleurs à l'ancienne théologie, parce qu'au Moyen-Âge, on avait réussi à fusionner les deux, mais sans que pour autant soit reconstruit un édifice global de connaissances. On fait donc des avancées, et parfois des reculs, plus souvent des reculs, pour montrer qu'on s'était toujours trompé, que des avancées, pour savoir ce que l'on peut connaître de neuf, dans des domaines qui sont précis et qui sont sectoriels. Mais il n'y a pas véritablement de conception globale qui puisse laisser espérer qu'un jour, la médecine racontera autre chose que, comme le dit Molière, un roman. Et c'est cette idée du roman de la médecine qui est développée par lui depuis l'origine jusqu'au terme de son parcours dramatique. D'abord à travers des personnages d'imposteurs qui sont des valets déguisés, qui sont là pour nous faire rire, et ensuite avec de vrais médecins qui viennent réciter une médecine très informée, parce que Molière s'informe toujours. Le théâtre de ce temps-là est un théâtre qui cherche à imiter la réalité en s'informant sur les différents savoirs qu'il met en œuvre. Quand il parle de poésie, de grammaire, Molière sait de quoi il parle. On raconte une anecdote, c'est qu'un jour, Louis XIV voit Molière arriver en compagnie de son médecin Mauvilain. Il lui dit « Voilà donc votre médecin, que vous fait-il ? » Sire, répond Molière, nous raisonnons ensemble. Il m'ordonne des remèdes, je ne les fais point et je guéris. Voilà un peu la manière dont sont conçues les choses. C'est un amusement, je dirais, un peu triste. Un amusement triste et il y a dans la manière dont il utilise la médecine, une sorte d'héroïsme et d'héroïsme lugubre. La médecine, elle recouvre les domaines du scepticisme à l'égard aussi de la religion, de la dénonciation des illusions chimériques ou obsessionnelles qui habitent les hommes. Il y a dans la médecine quelque chose, je dirais, d'à la fois terrifiant et qui par là se prête au rire. Et peut-être faut-il comprendre cet acharnement de Molière à l'égard du médecin comme une sorte d'obsession à l'égard d'un des sujets dont il est le plus difficile de rire, c'est-à-dire la mort. Et le fait de jouer ainsi avec la mort, comme il le fera dans sa dernière pièce, puisque cette pièce l'achèvera en quelque sorte, il me semble que c'est à la fois l'honneur de l'art dramatique, et c'est en même temps une sorte de recherche d'aller aux extrêmes. Jusqu'où peut-on aller trop loin? Jusqu'où peut-on jouer avec une telle chose qu'un malade en scène, même s'il est imaginaire?
Drolin, drolin, drolin.
Examinons les humeurs. Premièrement, avant. Secondement, de prendre la mesure du dur et du mou. Monsieur, pour les humeurs, assurément, nous devons renifler.
Alors évoquons cette ultime pièce de Molière en 1673, Patrick Dandré, quelques semaines avant sa propre mort. Molière écrit et joue sur scène son ultime pièce, Malade imaginaire. Alors d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer simplement l'intrigue de ce Malade imaginaire?
Eh bien, l'intrigue a cela d'intéressant qu'elle n'existe pas, ou du moins que c'est une intrigue postiche. Le Malade imaginaire, c'est vraiment un caractère, c'est un personnage. Alors, c'est un personnage qui se croit malade alors qu'il ne l'est pas, soit parce qu'il a un tel amour chimérique de la médecine qu'il s'imagine malade pour justifier qu'on le médicamente, ça lui donne confiance et puis on s'occupe de lui, et puis il aime bien faire sa liste de médications qu'il a prises le mois dernier. Il commence par un monologue immense où il fait la liste ainsi avec contentement et effarement de toutes les médications qu'il a prises. Et puis il y a peut-être une deuxième raison, c'est la hantise de la mort, l'inquiétude, l'angoisse de mourir qui fait qu'il se prémunit et que, et c'est là l'intrigue de la pièce, il va souhaiter que sa fille épouse un médecin, pour en avoir un sur place et dans sa famille. Et évidemment, on va essayer de le désillusionner, son frère, qui est un homme raisonnable, et sa servante, Toinette, qui est comme toutes les servantes de Molière, ardente, forte en gueule, et capable de dire les quatre vérités que son maître ne veut pas entendre, vont imaginer, après avoir vainement essayé de lui faire entendre raison, de le transformer en médecin dans un dénouement qui sera musiqué, dansé, et où une cérémonie parodique, celle normalement de l'intronisation d'un nouveau médecin par la faculté, est transformée en une sorte de carnaval qui induit le malade imaginaire dans un cercle vicieux, parce que de deux choses l'une, devenu médecin ou bien il se guérira puisqu'il pense que la médecine est si capable et dans ce cas-là il ne sera plus malade, ou bien il ne parviendra pas à se guérir et dans ce cas-là il ne croira plus à la médecine. Donc dans un cas comme dans l'autre, il sera guéri soit de sa chimère, soit de son obsession, de sa marotte.
Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes?
Vous en parlez, mon frère, comme d'un homme qui se porte bien. Si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Ah.
Mais quel mal avez-vous?
Oh, vous me feriez enrager! Je voudrais que vous l'eussiez, mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Voici M. Purgon.
Votre thèse principale, Patrick Dandré, à propos de ce malade imaginaire, elle est passionnante, cette thèse, c'est que Molière aurait eu l'intuition de la maladie mentale. C'est évidemment anachronique, mais qu'est-ce que ça veut dire, Patrick Dandré? Qu'est-ce que pressent Molière à travers ce personnage d'Argan?
Alors je dirais que à l'époque, il y a un manque dans les théories sur les rapports entre le corps et l'esprit qui sont vraiment la grande question, si vous voulez, du moment, et puis une question peut-être éternelle. Hein. Est-ce que nous sommes malades parce que notre corps a décidé que nous abandonnons? Ou est-ce que notre corps fait remonter à notre esprit une sorte de faiblesse et d'égarement? Bref, comment ça fonctionne? Il y avait une maladie qui jouait sur ce passage du Nord-Ouest entre le corps et l'esprit, qu'on appelait la mélancolie, qui était une maladie née d'un désordre de la bile noire dans la rate ou le foie, et qui montait au cerveau et qui rendait fou. Or, il se trouve que tous les malades de Molière sont affecté, on le lit en transparence, par cette maladie. Quand ce sont des filles qui feignent d'être malades pour recevoir leur jeune amant et éventuellement l'épouser ou se faire enlever par lui, elles sont atteintes d'une mélancolie que l'on appelait érotique, qui est en fait une hystérie. Alors, bien sûr, elles ne sont pas hystériques, mais il y a comme une valeur indiciaire dans le choix de cette maladie, puisqu'on a l'impression que Molière a choisi le mal dont elle serait atteinte si elle ne trouvait pas la solution qui consiste à le feindre. Et puis, de l'autre côté, vous avez des barbons, le premier étant Monsieur de Pourceaugnac, qui est mystifié, mais mystifié pas seulement lui, mais aussi deux médecins, à qui les gens qui veulent chasser Pourceaugnac de Paris font croire qu'il est devenu fou. Et donc ces médecins font un diagnostic de mélancolie hypochondriaque qui est extrêmement informé. Je vous avoue que quand je dois décrire la mélancolie hypochondriaque à mes étudiants, je les renvoie au passage de Monsieur de Pourceaugnac, parce que c'est un excellent résumé de la chose. Molière s'est fait instruire. Et c'est donc une maladie qui était réputée rendre fou. Or, un pamphlet a été écrit contre Molière à la même époque, qui s'appelle Elomir Hypochondre. Elomir, c'est l'anagramme de Molière, et qui dit que Molière est effectivement un hypochondriaque, c'est-à-dire un mélancolique hypochondriaque qui prétend être malade alors qu'en réalité il est fou, sa maladie loge dans sa tête. Et dès L'amour médecin, une comédie un peu antérieure, on voit deux types de raisonnements sur cette maladie intervenir. L'un qui est défendu par les médecins de la faculté, c'est « elle a des humeurs putrides plein l'abdomen, ça lui monte à la tête et c'est pour ça qu'elle veut se marier ». Et puis il y a le jeune homme déguisé en médecin qui vient dire « ah non, c'est le contraire, elle est obsédée par une idée fixe, cette idée fixe lui a travaillé le cerveau au point que ça lui a désorganisé le corps ». Et vous avez là la remontée et la descente, l'ascenseur de la maladie mentale, si tant est que le mot ait un sens, et qui va se retrouver de nos jours dans le rapport entre la psychanalyse et la psychiatrie. La psychiatrie, après tout, c'est quand on voit un fou dire « ben c'est son corps qui déconne », et puis quand vous êtes dans la psychanalyse, c'est le contraire. On vous dit « ben c'est que vous avez une idée fixe, on va vous régler ça par de la parole ». Et il est frappant d'ailleurs que 30 ans après le malade imaginaire, une thèse ait été soutenue à Montpellier qui pose la question « est-ce qu'on peut guérir les malades imaginaires telles que Molière les a décrits ?» simplement par l'usage de la parole ou faut-il user de médicaments? Et là, vous voyez, il y a quand même le problème que se posaient ces gens. Qu'est-ce qu'une hallucination d'un homme sur son propre corps, c'est-à-dire sur lui-même, alors qu'il se porte bien? Et la réponse que donnait la mélancolie est évidemment une réponse ambiguë, une réponse en porte-à-faux, parce que si vous dites « il se croit malade parce qu'il est hypochondriaque », c'est bien que vos hypochondres ne sont pas en très bonne santé. Donc on est dans un cercle vicieux, vous voyez, qui est d'ailleurs le cercle vicieux de la maladie mentale. Parce que la maladie, normalement, c'est le corps, et quand on dit mental, on n'y comprend plus rien.
Au cours des siècles derniers, il y a eu trois grands changements dans l'idée que l'homme se faisait de lui-même. Trois grands coups portés à notre orgueil, à notre vanité. Avant Copernic, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers et que tous les corps célestes gravitaient autour d'elle. Avant Charles Darwin, l'homme croyait qu'il était d'une espèce particulière, tout à fait à part du règne animal. Avant Sigmund Freud, l'homme croyait que ce qu'il disait et faisait était l'expression de sa seule volonté consciente. Mais le grand psychologue démontra l'existence d'une autre partie de notre esprit qui fonctionne dans le plus profond secret et qui peut parfois diriger notre vie.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Patrick Dandré, que Molière aurait eu le pressentiment de la névrose obsessionnelle ?
Je dirais que, dans les termes qui sont ceux de son temps, et à partir d'observations et d'une tradition comique qui était son métier, pris peut-être lui-même dans une obsession par une santé qui semble avoir été inquiétante, Molière a donné une réponse en des termes qui sont ceux du théâtre, pendant que 10 ou 20 ans plus tard, un médecin écossais qui n'a aucune connaissance de Molière et que Molière ne connaissait pas, qui s'appelle Sydenham, crée une théorie qui est que la moitié de nos maladies sont des maladies fictives, il parle de maladies caméléons, que notre corps joue à feindre inconsciemment, involontairement, parce que notre esprit est un peu perturbé.
Un siècle plus tard, presque un siècle plus tard, en 1763, Patrick d'André, un médecin français qui s'appelle Boissier de Sauvage, va inventer une classification des maladies dans laquelle il inclut la Melancholia argentis. Argentis, argan, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui aussi, ce médecin, pense que Molière a compris que l'âme secouait le corps?
Boissier de Sauvage est un classificateur. Il relève toutes les maladies qui ont été diagnostiquées, traitées ou seulement décrites pour offrir une sorte d'encyclopédie des maladies. Et il trouve que la description qui a été faite par Molière de quelqu'un qui se croit malade sans l'être et qui réclame des médications alors qu'il n'en a pas besoin, bah, ça fait partie, après tout, des observations pathologiques qui sont intéressantes. Il n'a pas du tout les mêmes clés que Molière. Molière, lui, la solution qu'il donne au mal d'Argan, c'est que comme Argan ne peut pas être malade de mélancolie, parce que ça, c'est des billevesées, ce sont les romans de la médecine, la seule chose qui explique qu'Argan soit malade, c'est les médecins. En somme, il est malade d'être soigné par des médecins. Ce sont les médecins qui vous rendent malade. C'est un cercle vicieux extrêmement pratique, et ça permet, en somme, de combiner le cas d'Argan sans s'occuper du roman de la médecine. Ça tourne sur soi-même. Hein. Je suis malade parce que les médecins me rendent malade, et les médications qu'ils me donnent sont les symptômes de ma maladie. Je suis affaibli, bah forcément, puisque je suis médicamenté, et donc si je suis faible, j'ai besoin de médicaments. Je prends des médicaments, donc je suis de plus en plus faible. Et ainsi de suite.
Ah, monsieur Corneille, pardon de vous avoir fait attendre. J'étais avec mes médecins.
Et que disent-ils ?
Qu'il faut que je m'arrête de travailler, que je m'enferme dans ma maison d'Auteuil et que j'y reste au moins 3 mois à ne boire que du lait. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, mais moi qui refuse d'habitude d'obéir à mes médecins, aujourd'hui j'ai dit oui. Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire, Lagrange, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui prenez la troupe en charge. Vous viendrez me voir à Auteuil une fois par semaine. Ce sera une agréable promenade. Pour atteindre ma maison, il faut une barque. Entre les arbres et l'eau, les problèmes seront faciles à résoudre.
Souvenez-vous que Molière est mort d'une fluxion, autrement dit, d'une congestion des bronches, et qu'il s'est étouffé après une hémorragie. Ça, c'est la mort réelle, concrète. Mais peut-être a-t-elle été provoquée par une raison plus profonde.
Si on demande de quoi il est mort, je vais vous offrir un scoop. On fait beaucoup de diagnostics rétrospectifs. Il y a des gens qui ont parlé de rupture d'anévrisme, il y a des gens qui ont parlé de tuberculose, il y a des gens qui ont parlé de rupture d'un vaisseau dans le cœur ou dans le cerveau. Enfin, on ne sait pas trop, mais moi je pense qu'il est mort d'épuisement, comme Mozart. On sait qu'il est mort parce qu'il était liquéfié, liquidé. Molière était un entrepreneur, un homme d'industrie, il avait une troupe, il écrivait des rôles et il les jouait lui-même. Il était vieux, parce qu'à 50 ans, à cette époque-là, on est vieux. Et un an et demi plus tôt, en 71, il avait joué Scapin. Je ne sais pas si vous avez vu Les Fourberies de Scapin. Un comédien qui a joué un très très bon Scapin, Arnaud Denis, me racontait qu'il avait perdu 5 kilos pendant l'époque où il avait joué Scapin. J'imagine que Molière, qui n'était pas déjà très gros, si on en croit le diagnostic qui est fait de Monsieur de Pourceaugnac, où on décrit le corps de celui qui joue, c'est-à-dire de Molière, comme grêle, fin, les yeux un peu exorbités. Enfin, ça devait pas être quand même un foudre de guerre et un personnage ultra costaud. Donc, je pense qu'il était épuisé par tout cela. Et en plus, il avait un souci. Louis XIV se détournait du théâtre comique pour aller vers la musique, parce que c'est l'art que Louis XIV préférait. Lully, qui était un ambitieux, faisait des misères à Molière, voulait l'empêcher de reprendre les divertissements de musique et de danse qu'ils avaient écrits ensemble.
Psyché, Monsieur de Pourceaugnac, Le Bourgeois Gentil. Toutes ces éditions sont maintenant imprimées sous le nom du seul, Monsieur de Lully.
Tu ne vas pas aussi me voler mes œuvres?
Le décret signé du roi indique expressément que toute parole sur laquelle j'ai composé de la musique est maintenant ma propriété.
Attends!
Donc Molière avait des soucis, et je pense que ce rôle a été écrit par lui.
Tu ne vas pas tout me prendre.
Pour exorcisme, la preuve, c'est que à l'intérieur de la conversation d'Argan, le malade imaginaire, avec son frère Bérald, on parle de Molière. Bérald dit à ce fou de frère qu'il a, j'aimerais pour vous guérir de votre erreur, vous amener voir une des comédies de Molière. Et l'autre répond que Molière est un coquin, un maraud, et qu'il a tort de se moquer des médecins qui sont des gens si estimables. Son frère lui réplique qu'après tout, il ne se moque pas des médecins, mais il se moque de la médecine. Et à ce moment-là, Argan a cette parole un peu terrible. N'oublions pas qu'il est écrit par Molière, qu'il est joué par Molière. Argan dit, eh bien, si Molière tombait malade, je serais les médecins, je n'irai pas le soigner. Bérald répond, il ne cherchera pas à l'être parce qu'il pense que les gens meurent plus facilement de leurs médicaments que de leur maladie. Et Argan, à ce moment-là, cette phrase célèbre, eh bien, si j'étais que des médecins, lorsqu'il serait malade, je ne le soignerais pas, je lui dirais, crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer de la médecine. Quand même, ce texte, dans la bouche de Molière, l'écrivant est appelé, nous le savons, nous, à mourir de ce rôle, et dans ce rôle, quelques jours plus tard, crève, crève, c'est terrifiant.
Je t'avais prévenu, Molière. Le roi ne supporte plus tes crachats et tes râles.
C'est toi qui lui dis que je vais crever pour mieux tirer la couverture.
Périmée.
Mon corps sent la mort, c'est ça.
Voulez-vous maintenant me situer chronologiquement où nous en sommes à peu près ? Je suis un peu perdue.
Eh bien, nous sommes au XVIIe siècle et nous auscultons le rapport de Molière à la médecine et au corps. C'est une question cruciale dans l'œuvre de Molière où les personnages de médecins et de malades expriment une angoisse de l'homme face au corps et à la mort.
Nous allons, monsieur, prendre congé de vous.
Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. S'il vous plaît.
Des angoisses que nous partageons encore aujourd'hui. Nous sommes tous des malades imaginaires. En tout cas, nous avons tous la faculté de nous inventer des maladies que notre corps traduit par des douleurs ou des symptômes. Alors que dire de ces capacités de l'esprit à secouer le corps quand il s'agit d'un acteur ?
Audacieux jusqu'à l'excès, jusqu'à la perte de sa propre conscience, et pourtant soumis. Sensible à l'harmonie d'un texte, à l'au-delà de ce texte, possédé par l'âme de ce texte, capable de l'improviser sur un plan pourtant bien établi, capable aussi de se laisser envahir par les sensations les plus vives, les plus contradictoires, les plus désordonnées.
Selon Molière, dans un registre là aussi médical, il ne faut pas que le comédien soit possédé par son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire, un acteur possédé ?
Alors, le mythe de l'acteur possédé, c'est un mythe romantique. C'est un mythe qui a été construit a posteriori, sans doute à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec l'apparition de grandes figures, des premières grandes vedettes du théâtre, Talma, et puis ensuite tout cela a été revisité par le romantisme, avec cette idée que l'acteur se consume dans son art et que quelque part, le fait d'être victime d'un certain mal, d'une forme de neurasthénie, peut même prédisposer à l'interprétation de rôles tragiques, notamment. Mais ça, c'est bien postérieur à Molière. Molière, quand il se met en scène avec ses comédiens dans l'Impromptu de Versailles, il met bien en garde ses comédiens contre l'identification de l'acteur à son personnage. Et le contre-modèle, ce sont évidemment les tragédiens de l'Hôtel de Bourgogne, notamment Montfleury. Alors, Montfleury, qui était gros et gras et qui interprétait principalement les rôles de roi et d'empereur, alors déjà, il les attaque pour justement partir de la physionomie de l'acteur et penser qu'il faut des prédispositions physiques pour interpréter un rôle de roi et d'empereur. Il faut être gros et gras, avoir une déclamation en poulet. Et Molière dit précisément le contraire. On peut interpréter n'importe quel rôle, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé. Par exemple, Baron, qui était un des grands comédiens de Molière, va jouer les amoureux jusqu'à un âge très avancé. Peu importe le corps de l'acteur, finalement. Ce qui est important, c'est le travail, la technique, et cette idée qu'il faut peindre son personnage, et donc garder une distance avec le caractère incarné. Il le dit très clairement à ses comédiens dans l'Impromptu de Versailles, c'est une sorte d'art poétique. Et il dit bien, notamment à l'une de ses actrices, « Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour bien en faire les grimaces. » Donc on voit bien que le rôle est face à l'acteur. Et il ne doit pas se laisser contaminer par son personnage et encore moins par les vices et les passions de son personnage. Et il sera un bon acteur s'il garde ses distances, contrairement aux tragédiens tels que Montfleury, dont l'histoire prétend d'ailleurs qu'il serait mort sur scène en incarnant les fureurs d'Oreste. Évidemment, Molière ne pouvait pas connaître cette anecdote, qui est peut-être fausse, mais malgré tout, c'est comme si la suite lui donnait raison et montrait qu'effectivement, il y avait un danger à se laisser contaminer par son rôle et se laisser envahir par les passions de son personnage.
Maria Mirico, dites-moi, pourquoi avez-vous fait du théâtre ? Le savez-vous ?
Le théâtre vous offre une possibilité extraordinaire.
Laquelle ?
C'est de changer de peau. Et depuis que je suis comédienne, je me rends compte pourquoi autrefois l'Église excommuniait les comédiens. Nous n'avons droit tous qu'à une seule âme. Et lorsque nous prenons la peau de quelqu'un d'autre, et si nous entrons vraiment dans sa peau, je ne sais pas s'il ne se fait pas un transfert. C'est très curieux, très bizarre ce qui se passe. Je comprends très bien qu'un comédien qui était un excellent comédien autrefois donnait la sensation d'être quelqu'un d'autre, et ça, c'était naturellement pas bien.
Quelqu'un d'habité.
Oui.
De posséder.
Oui, oui. Si on joue bien un rôle, on est un peu possédé, il n'y a pas de doute.
Mais quand vous jouez, vous passez entièrement dans la peau du personnage, vous n'êtes plus Maria Mirico.
Si, je suis un peu Maria Mirico à l'arrière. Maria Mirico me surveille.
Lucide.
Oui.
Vous ne vous laissez pas entièrement envahir par le personnage.
Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Je deviendrais folle.
Alors justement, Florence Philippis, ce mythe de l'acteur possédé, ça renvoie à la possession, à la folie. Hein. Ce serait l'acteur qui serait pris par son rôle et qui deviendrait plus ou moins fou. Molière dit au contraire, c'est assez sain de jouer des rôles. Molière exprime ça, il dit en fait à sa troupe, plus vous jouez, plus vous serez sain d'esprit en réalité.
Tout à fait, il défend les vertus du théâtre contre les effets nocifs, notamment de la médecine, des faux dévots aussi, du fanatisme religieux. Et il montre que ceux-là même qui sont les premiers détracteurs de son théâtre et qui pointent les comédiens comme étant des faiseurs d'images trompeuses, ce sont eux les vrais acteurs, mais de mauvais acteurs, qui précisément rendent dupes de discours mensongers. Le bon acteur n'est pas un menteur. Le bon acteur, c'est un honnête homme. C'est ce que lui demande d'ailleurs le roi, Louis XIII, dans son fameux édit de 1641. Il doit se comporter en manifestant dans son port privé une forme de dignité morale. Et cette dignité morale l'autorise à incarner des masques divers et variés sur scène. En cela, il y a Molière défend une pratique saine du théâtre, puisqu'il faut en effet être capable de faire le distinguo entre ce fort privé et ce masque public. C'est le principe même de la culture classique, hein, faire le distinguo entre le masque qui est celui de l'imposteur et un masque vertueux qui protège l'honnête homme de toute atteinte et qui garantit une forme de paix civile. C'est tout l'objet de la discussion, par exemple, entre Alceste et Philinte au début du Misanthrope. Misanthrope qui est désigné comme l'atrabilaire amoureux, donc celui qui est malade par excès de franchise. Et Philinte lui dit que, précisément, pour ne pas se laisser atteindre, Alceste devrait ne pas montrer le fond de sa pensée, devrait dissimuler une partie de ce qu'il est, pour se préserver et rester quelque part un corps sain. Et donc il y a effectivement là une forme de miroir entre le monde de la cour ou les contemporains que Molière cherche à refléter dans son théâtre et la posture de l'acteur sur scène, évidemment, et la posture qu'il doit conserver sur scène.
Le roi !
Sire, monsieur mon premier médecin, approchez.
Sire, le pouls de votre majesté est d'uriuscule, pour ne pas dire dur. Il est repoussant et même un tantinet capricant. Il montre quelques intempéries dans l'organisation intérieure de votre majesté.
Que pouvez-vous faire à cela, mon cher Bodino ?
Sire, mon plus ardent désir serait que votre majesté me fasse l'honneur d'absorber un délicat bouillon purgatif que j'ai composé au cours de mes veilles consacrées à la gloire des entrailles bien-aimées de votre majesté.
J'accepte de prendre votre bouillon.
Votre majesté me comble.
Pour être un peu plus précis, quand Molière s'en prend aux charlatans de la médecine du XVIIe siècle, quelle est son ambition ?
Faites avancer le bouillon purgatif du roi.
C'est une autre manière d'attaquer tous ceux qui se servent, notamment du langage, de la croyance ou d'une pseudo-vérité scientifique pour tromper un public, pour tromper des fidèles. Et surtout l'emprise que les faux dévots, tout comme les médecins, exercent sur les fidèles ou sur les patients. Puisqu'effectivement, il y a cette terreur de la mort qui, sans doute, permet d'avoir une emprise aussi bien sur les fidèles que sur les patients et qui les rend crédules. C'est en cela que Molière, lui, dénonce les excès et les dérives possibles de cette rhétorique. Je ne dirais pas que le médecin ou le corps médical est un autre clergé. En tout cas, ses techniques de manipulation sont les mêmes que celles des faux dévots. Tout son théâtre est traversé par cette idée qu'il y a une force du théâtre qui est supérieure, notamment à celle de la médecine. D'abord parce qu'on peut y créer l'illusion de la maladie, et dans le même temps, guérir le malade. Donc c'est en cela que le théâtre est plus fort que, notamment, que cette science trompeuse.
Si on parle du temps présent, en quoi les comédies médicales de Molière et ses obsessions, en quoi est-ce qu'elles font écho au temps présent ?
Oh, je pense que l'hypocondrie reste quand même une thématique particulièrement frappante et qui continue de parler peut-être plus que jamais aujourd'hui à nos contemporains, puisqu'on a vu beaucoup de tempéraments hypochondriaques se manifester de façon spectaculaire quand même ces dernières années, dans le cadre de la pandémie. Et on a vu les dérives d'ailleurs possibles de cette hypochondrie. Il était peut-être temps plus que jamais de revoir le malade imaginaire, même si c'est le moment où précisément on n'a pas pu le faire. Mais j'espère que là, la réouverture des théâtres va nous autoriser à rire aussi de cette période qui a été très angoissante.
Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux.
Justement, le poumon.
Et parfois des douleurs de tête.
Le poumon.
Et j'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Et il me prend parfois des lassitudes par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois j'ai des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques.
Le poumon.
Comment est-il ?
Mal. Il tousse, il grogne. C'est un mauvais jour.
Madeleine est morte il y a un an aujourd'hui.
Il ne devrait pas jouer aujourd'hui. Il est trop mal.
Je vais fort bien. Qu'on me laisse en paix. Mais commencez à l'heure où il faudra vous passer de moi.
C'est un mauvais jour.
Vous savez tous que Molière mourut le 17 février 1673, après la 4e représentation du Malade imaginaire.
Molière est mort après avoir interprété un Malade imaginaire. Curieuse équation qui nous offre l'occasion d'un exercice de géométrie médicale et psychique. L'affaire est subtile, mais suivez bien la démonstration de Patrick Dandré, ça en vaut la peine. Et puis, si c'est nécessaire, rembobinez.
On va jouer à la géométrie. C'est pas facile à la radio, mais nos auditeurs vont nous suivre. Imaginons un petit triangle. Vous mettez Molière d'un côté, à la base, et puis de l'autre, vous mettez le rôle qu'il va jouer, Argan. Et puis, entre les deux, vous mettez l'obstacle qui est la maladie. La maladie, ça peut empêcher Molière d'être Argan. Ça peut l'empêcher de jouer jusqu'au bout. C'est d'ailleurs arrivé à la 4e représentation. Alors, que fait Molière ? Eh bien, il s'arrange pour que, entre lui et sa maladie, vienne faire obstacle un personnage de maladie imaginaire qui oblige à se bien porter. Dès lors, Molière sera obligé, par conscience professionnelle, de se porter bien. C'est la conscience professionnelle qui l'exigera. Et malheureusement, le soir où ça n'a pas marché, on peut jouer sur les trois éléments que je m'amuse à mettre en triangle, en disant que Argan, qui n'est pas un vrai malade, s'est trouvé en quelque sorte cassé, qu'il y a eu rupture avec sa maladie imaginaire par le fait que Molière, acteur, lui, l'était vraiment. Et c'est la troisième distribution. Et ce jeu, ainsi, des trois éléments, fait que Argan est à la fois une parade, peut-être, un défi et un obstacle. Et ce sont ces éléments qui font de lui, me semble-t-il, l'incarnation du théâtre comique de Molière. Gide disait que Le Bain d'imaginaire était la meilleure comédie de Molière, la plus stupéfiante, avec cet immense monologue. C'est fou quand même ce que cet acteur, qu'on pouvait imaginer un peu fatigué, puisqu'il s'était pas donné de rôle dans La Comtesse d'Escarbagnas une année avant, il n'avait pas pu versifier lui-même Psyché, il l'avait fait faire par Pierre Corneille. On peut quand même imaginer que ce personnage avait un culot incroyable. Et on voit comment son principal second, Lagrange, a pu écrire que, et je vous cite la phrase célèbre, le 17 février, jour de la quatrième représentation, « Il fut si fort travaillé de sa fluxion qu'il eut de la peine à jouer son rôle, il ne l'acheva qu'en souffrant beaucoup, et le public connut aisément qu'il n'était rien moins que ce qu'il avait voulu jouer. » Alors là, ça peut paraître évidemment simplement un fait, mais voulu jouer, ce qu'il avait voulu jouer, il était rien moins que ce qu'il avait voulu jouer. Et il y a là, dans le rapport d'un homme avec son corps, d'un acteur avec son jeu, d'un écrivain avec ses rôles, quelque chose qui est puissant, comme du Shakespeare, ou, je plaide pour ma chapelle, comme du Molière. Et le fait que Molière ait eu sa défaillance, prenons-y garde, non pas en jouant Argan, mais en jouant Argan devenu médecin. C'est-à-dire dans un rôle non pas de malade, mais dans un rôle de médecin. Ça multiplie les ambiguïtés. Voilà un personnage qui est malade de la médecine et que ses médecins rendent malade. Molière a pris le médecin comme bouc émissaire et comme idée fixe, comme personnage fréquent de son théâtre, comme tête de Turc. Et voilà Molière qui, ayant réussi pendant toute la représentation à jouer tant bien que mal le malade imaginaire, c'est-à-dire à se montrer bien portant, craque au moment où il joue le médecin que le malade imaginaire devient. C'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est ça le théâtre, et c'est ça la beauté de l'art, c'est cette complexité du rapport que nous avons, et le théâtre nous le révèle, avec notre corps, avec nos images, avec les rôles que l'on nous fait jouer, avec notre sincérité, avec nos peurs.
Glisterium donare. Postea, signare, ensuite purgare.
Viva, 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 enfin viva.
En conclusion de ce huitième épisode, peut-être faut-il voir dans le rire de Louis XIV devant les médecins ridiculisés par Molière, une manière de tenir à distance son angoisse de mort et un léger répit dans ses peurs d'affronter la maladie. Trois siècles plus tard, peut-être avons-nous, devant le malade imaginaire, les mêmes raisons de rire que Louis le Grand. Sur la fin de sa vie, avec ce malade imaginaire, Molière a sans doute eu l'ambition de hisser son rire au niveau de la tragédie. Quoi qu'il en soit, à peine mort, Molière ne s'appartenait déjà plus, voué à devenir un génie classique dont le rayonnement ne s'est fixé aucune limite.
Un jour viendra où mon œuvre sera devenue si légendaire qu'on ne dira plus « parlez-moi en français », mais plutôt « parlez-moi dans la langue de Molière ».
Molière, incarnation de la République, c'est l'horizon du prochain épisode.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Jean-Philippe Jeanne. Prochain épisode, le héros républicain. Molière, le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.